Vous êtes avec nous en direct depuis Dakar. Bonjour.
Bonjour.
Merci de répondre.
Merci de me recevoir.
Merci à vous de répondre présente à notre invitation sur Médien. Alors d'abord, est-ce qu'il existe véritablement plusieurs types d'insomnie?
Alors oui, merci pour votre question. L'insomnie est un trouble classé parmi les troubles du sommeil. Et ces troubles du sommeil regroupent différents troubles. D'abord, il y a l'insomnie d'endormissement, c'est-à-dire qu'on a du mal à s'endormir.
Oui.
Ensuite, il y a l'insomnie de réveil. C'est lorsqu'on s'endort facilement, mais qu'on se réveille très tôt, au milieu de la nuit, et qu'on n'arrive plus à trouver le sommeil.
D'accord.
Ensuite, parmi les troubles du sommeil, il y a aussi les terreurs nocturnes, les cauchemars, par exemple. Et ensuite, il y a le somnambulisme.
D'accord. Alors, quelles sont justement les personnes les plus touchées par ce trouble du sommeil?
Alors, tout le monde peut, à un moment dans sa vie, ou tout au long de sa vie, être touché par les troubles du sommeil. Mmh. L'insomnie, elle peut soit être isolée, donc oui, dans une période de stress particulière, la veille d'un examen, ou bien dans différents moments de la vie. Il y a des moments où on est plus propice à avoir ce type de trouble. Elle peut être liée aussi à des troubles plus graves, comme par exemple la dépression, comme vous l'avez signalé au début de l'émission, ou alors le versant maniaque d'un trouble dissociatif, ou
d'accord,
encore dans le contexte d'un trouble anxieux. Dans un contexte normal, par contre, on peut être victime d'une insomnie de l'un des types cités précédemment, c'est-à-dire soit insomnie d'endormissement ou insomnie de réveil, dans une période particulière ou dans un contexte stressant. Par exemple, dans un contexte normal, les femmes enceintes peuvent développer des insomnies au cours de la grossesse.
D'accord.
Et cela est souvent associé au mouvement du bébé, qui peuvent gêner le sommeil. Mais ce n'est pas des insomnies graves ou liées à des problèmes psychologiques ou psychiatriques plus
d'accord,
graves.
D'accord. Et justement, comment savoir qu'on est un vrai insomniaque? Ces symptômes qui devraient normalement nous alerter?
Eh bien, le manque de sommeil créé par une insomnie, ça déséquilibre l'organisme.
Oui.
Et on peut savoir si jamais le trouble est beaucoup plus grave qu'il nous paraît lorsqu'il se répète sur le long terme. Si par exemple il est intégré dans une symptomatologie plus grave, on reconnaît le trouble comme étant symptomatique de la dépression par exemple.
Mm-hmm.
Lorsque on voit un patient qui développe un trouble dépressif, il cite l'insomnie comme l'un des symptômes, mais ce n'est pas le symptôme majeur. C'est-à-dire au tableau clinique, il y a aussi des pensées négatives, du pessimisme, une difficulté d'envisager l'avenir. Et l'insomnie n'est qu'un des troubles. Par
d'accord,
contre, lorsque l'insomnie est principalement au tableau clinique, c'est un trouble isolé. Et on peut le traiter de manière isolée.
D'accord. Alors justement, j'imagine qu'il doit y avoir plusieurs facteurs physiques, psychiques et environnementaux. Alors quelles sont les causes de l'insomnie les plus fréquentes?
Eh bien, tout dépend vraiment du contexte de l'individu. C'est-à-dire, les enfants peuvent également être victimes de troubles du sommeil.
Oui.
Pas seulement insomnie, mais ça peut également aller vers la terreur nocturne ou les cauchemars.
D'accord.
Ou le somnambulisme. Et les insomnies peuvent révéler chez les enfants une anxiété qui peut avoir multiples sources. Par exemple, une situation familiale difficile, une phobie, une situation anxiogène qui est vécue dans le cadre scolaire. Par exemple, les notes, les relations d'amitié, les relations avec l'enseignant ou l'enseignante.
Mmh.
Et là, l'insomnie peut alerter les parents sur un problème différent qui se déroule hors du cadre familial ou alors dans le cadre familial. Et l'enfant manifeste cette anxiété à travers cette insomnie.
Justement, vous parlez... Oui.
Mmh.
Vous parlez des enfants. Est-ce qu'on peut dire que l'insomnie chez un enfant peut être causée par ce stress comme pour un adulte?
Exactement. Ça peut alerter. Lorsque l'enfant développe une insomnie, ce trouble peut alerter les parents sur l'anxiété de l'enfant, sur le fait qu'il ne se sent pas forcément en confiance ou en sécurité.
D'accord.
Et ça peut leur permettre de chercher les causes de cette insomnie de cette manière, de poser des questions sur ce qui se passe dans le cadre scolaire ou comment est-ce que l'enfant réagit à la situation du domicile, de l'environnement au niveau familial.
Alors, je voudrais m'intéresser aux besoins du sommeil avec l'âge. Est-ce que nos besoins du sommeil changent justement avec l'âge?
Tout à fait. C'est une question à laquelle un médecin pourra mieux répondre que moi, mais je peux vous donner ces quelques éléments-là. Notre organisme a besoin de la phase de sommeil pour se développer, puis une énergie nécessaire à sa croissance, son fonctionnement. En fonction de notre âge, on traverse différentes phases de développement et on a par conséquent des besoins différents en matière de sommeil et d'alimentation.
D'accord.
Pour les mêmes raisons que nous traversons différentes phases de croissance,
mmh,
on est dans différentes conditions physiques aussi et on a différents rythmes.
Oui.
Donc nos besoins en termes de sommeil sont différents également. Le rythme qu'on impose à notre corps, que chacun impose à son corps en matière d'entraînement, de sport, d'alimentation, de travail, de veille, de sommeil, ça a un impact sur notre capacité à récupérer.
Très bien.
À récupérer pendant les heures de sommeil. Et aussi, la qualité du sommeil a une grande importance. Car elle influe sur le nombre d'heures qu'il faut à une personne pour se sentir reposée. Par exemple, si quelqu'un a un trouble de type apnée du sommeil, ou encore somnambulisme, la qualité du sommeil ne sera pas la même pour lui et son corps ne se sentira pas autant reposé que celui d'une personne qui n'a aucun de ces troubles-là. Et donc, quel que soit le nombre d'heures de sommeil, il ne lui procurera pas le même repos. Et donc, il aura forcément un besoin de sommeil qui sera plus important.
Alors, on connaît tous les conséquences de l'insomnie sur notre organisme. Et là, je pense notamment à cette fatigue, aux pertes de mémoire, aux migraines. Est-ce que, à long terme, il peut y avoir des conséquences encore plus importantes, encore plus graves ? Vous, en tant que psychologue, est-ce que vous voyez des cas qui arrivent chez vous et à cause de cette insomnie, peuvent arriver à des cas assez graves ?
J'aimerais ajouter à la réponse que j'ai donnée précédemment, qui peut peut-être expliquer une partie de la question que vous venez de me poser. Oui. L'usage de drogue et d'alcool, ça influe aussi beaucoup sur la qualité du sommeil et les besoins de notre organisme. Oui. C'est à la fois une cause et une conséquence de l'insomnie.
D'accord.
Et en termes de conséquences graves,
oui.
Le manque de sommeil créé par une insomnie déséquilibre l'organisme, car ça le prive du repos dont il a besoin pour fonctionner normalement. Donc sur une période prolongée, le manque de sommeil peut entraîner de la confusion et ça peut aller jusqu'à la survenue d'hallucinations.
D'accord.
Et cela peut arriver lorsque l'insomnie est présente au tableau clinique de certains troubles mentaux, comme ceux que nous avons cités plus tôt.
Justement,
lorsqu'on en arrive à ce point, il est impératif de consulter un professionnel de la santé mentale et d'avoir accès à un traitement médicamenteux.
Oui.
Parce que tant que le sommeil n'est pas mis en place pour pouvoir permettre à l'organisme d'évacuer et de pouvoir se reposer, le système nerveux tourne en boucle et va de plus en plus vers des symptômes psychiatriques de plus en plus graves.
D'accord. Justement, puisque vous parlez de traitement, l'insomnie peut avoir plusieurs causes, donc vous l'avez dit. J'imagine qu'il faut connaître la cause pour adapter donc le traitement à chaque situation. Est-ce que c'est du cas par cas ?
Je pense qu'il y a des groupes de cas.
D'accord.
Il y a des groupes de cas, c'est-à-dire lorsque l'insomnie est réactionnelle à une situation spécifique de stress. On peut tous être victime d'une insomnie la veille d'un examen, par exemple, ou la veille d'un voyage, ou lorsqu'on doit prendre une décision importante. Dans ce contexte-là, on n'est pas dans le cas d'une psychopathologie lourde avec une problématique grave. On sait exactement qu'on est victime de ce trouble-là pour cette raison précise. Et dans ce cas-là, le traitement, il n'ira pas vers la médication pour permettre le sommeil. Parce qu'on sait que c'est circonstanciel à un problème spécifique qu'on arrive à toucher du doigt. Par contre, lorsqu'elle s'inscrit dans un contexte psychopathologique précis, il faut traiter le trouble mental de manière globale. Et pour cela, on a besoin de l'aide d'un psychiatre. Mais lorsque l'insomnie est un symptôme isolé, présent par moment, dans un contexte anxiogène quelconque, il sera utile d'avoir recours à des méthodes douces pour apprendre à mieux la prévenir sur le long terme. On parle par exemple de la relaxation, de la méditation. Et ces méthodes ont prouvé leur validité en tant que méthode saine et douce pour lutter contre les troubles du sommeil.
D'accord.
Une fois apprises et maîtrisées, elles peuvent permettre aux enfants aussi, ainsi qu'aux adultes, de mieux gérer leurs émotions dans un contexte différent. Et cela peut permettre la gestion de l'anxiété sur le long terme.
D'accord. Alors, quelles seraient les mesures préventives, ces mesures à prendre pour essayer d'éviter de tomber dans ce piège qu'est l'insomnie ?
Eh bien, en fait, je peux presque dire qu'on ne peut pas réellement prendre de mesures pour prévoir l'insomnie. Ce qu'on peut faire, c'est avoir une méthode pour gérer l'insomnie lorsqu'elle se présente et avoir une méthode générale pour gérer ses émotions à travers, par exemple, l'usage de la méditation, de la relaxation. Au moment où on se sent incapable de s'endormir, on peut adapter des techniques de méditation de manière ponctuelle. Mais plus on les met en place, mieux on arrive à les maîtriser et plus on arrive à en tirer les bénéfices.
Parfait. Alors avant de nous quitter, Madame Soukaina Diop, je rappelle que vous êtes psychologue à Dakar. Avant de nous quitter, quels seraient vos conseils aux auditeurs de Médian qui nous écoutent également depuis Dakar sur le 93.8 ?
Alors, ce que je peux dire, c'est que dans le contexte où l'insomnie est présente au tableau clinique d'un trouble plus grave, il est impératif de tenir compte du fait que souvent, lorsque les troubles plus graves arrivent dans leur phase où ils deviennent de plus en plus, de plus en plus accélérés ou de plus en plus présents ou difficiles à supporter pour l'individu, il est impératif de voir l'insomnie comme un signe d'alerte et de tout de suite réagir au moment où ce trouble se présente, parce que lorsque l'insomnie se répète, elle augmente la prévalence des autres symptômes associés comme l'impression d'être agressé, comme la difficulté de pouvoir se projeter dans l'avenir, comme les pensées pessimistes qui peuvent développer plus rapidement les symptômes de troubles psychopathologiques plus graves. Alors on peut voir l'insomnie à ce moment-là comme un signe d'alerte et il est impératif de consulter à ce moment-là avant que les troubles s'accélèrent et qu'on arrive dans une phase où on n'arrive plus du tout à chercher de l'aide.
D'accord.
Par contre, dans le contexte où l'insomnie est isolée et que c'est un trouble simplement isolé qu'un individu rencontre, peut-être qu'on a, on a des différents types de personnes et certaines personnes sont plus promptes à développer ce type de trouble lorsqu'ils ont des décisions à prendre. Et ils le savent. Mmh. C'est-à-dire, ils auront tendance à se dire, voilà, je n'ai pas réussi à dormir parce que je sais que demain, j'ai quelque chose à faire d'important. Mmh. Et il est impératif, de, lorsqu'on sait qu'on a cette condition, de développer des techniques qu'on arrive à parfaire, comme par exemple savoir se détendre, mettre en place une journée spécifique, c'est-à-dire on sait qu'on va avoir quelque chose d'important à faire le lendemain, donc de mettre une séance de sport dans la journée, de se détendre, de consommer une nourriture plus légère, de faire des choses qui mettent en place au moins un rythme de vie qui soit plus propice à un meilleur sommeil, d'accord, lorsque ces choses-là doivent se produire dans un contexte spécifique donc, dont on connaît les causes exactement.
D'accord, parfait, merci beaucoup. Madame Soukina Diop, vous êtes psychologue à Dakar, je le rappelle. Merci beaucoup une nouvelle fois d'avoir répondu à toutes nos questions sur Médian.
Au revoir.